Voix du Vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, ils sont sortis des plus grandes écoles de commerce de France, mais ils avaient besoin de trouver du sens à leur travail. Ils ont donc créé Ticket for Change il y a 3 ans pour accompagner des acteurs du changement. Celles et ceux qui ont envie de changer leur vie pour mieux changer celle des autres dans tous les domaines, l'énergie, l'alimentation, le vivre ensemble. Et en 3 ans, plus de 380 projets ont été lancés et le concept s'exporte aux Comores et au Cameroun. Nous en parlons avec nos invités tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent sur RFI.
Chaque année, la forêt indonésienne brûle, victime d'un défrichage sauvage pour faire place nette aux cultures, notamment de palmiers à huile. Et l'année dernière, les conséquences de ces feux ont été catastrophiques. Bonjour Chani.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de l'ONG Kalawet qui se bat depuis une vingtaine d'années maintenant.
Presque 20 ans. Hein.
Presque 20 ans. À Bornéo et à Sumatra pour la protection de nos cousins, les gibbons et les siamang. Alors vous êtes mobilisé, hein, vous êtes personnellement mobilisé contre ces feux. C'était il y a pile un an en adressant un message directement à Joko Widodo, le président indonésien. C'est un message qui d'ailleurs avait été très relayé à l'époque sur les réseaux sociaux.
Oui, la vidéo est devenue virale et ça m'a un peu dépassé, je dirais, à l'époque, parce que mon message était, certes, en tant qu'activiste, moi je me bats pour essayer de sauver les gibbons et la forêt, mais à l'époque c'était surtout de la colère d'un papa qui vit à Bornéo. Donc moi, j'ai 2 enfants et voir ses enfants tousser, pas pouvoir leur donner un air respirable, ça m'a mis en colère et c'est ce qui m'a poussé à faire cette petite vidéo adressée au président indonésien.
Et vous disiez quoi dans cette vidéo ?
Dans cette vidéo, en gros, je demandais au président si c'est ça ce qu'il voulait pour son pays. Et pour l'huile de palme, prêt à gazer, entre guillemets, sa population, puisque c'était aussi un énorme problème de santé publique, évidemment, en plus de ces millions d'hectares qui sont partis en fumée. J'attaquais frontalement l'industrie de l'huile de palme, puisque j'expliquais dans cette vidéo que c'était visible sur le terrain, que les terres brûlées étaient transformées en plantation. Il y a des zones qui étaient transformées en plantation après simplement 1 semaine après les incendies. Donc c'était extrêmement visible.
Et alors, vous avez eu des réponses ?
Alors, j'ai été extrêmement présente du coup partout dans les médias indonésiens à l'époque, puisque les médias ont relayé cette vidéo et évidemment que le président a entendu parler et j'ai été convoqué par la ministre des Forêts 3 jours plus tard. En fait, c'est pas elle directement qui m'a reçu, mais c'est son équipe. On m'a fait comprendre que j'étais un peu allé loin, quand même, dans ma démarche. Ensuite, on m'a expliqué aussi qu'en Indonésie, vous avez une autonomie des provinces et que Jakarta, à un moment donné, ne pouvait pas faire grand-chose. Que c'était les gouverneurs de chaque province qui avaient un peu la mainmise sur ce qui se passe. Et 3 jours après ma vidéo, par exemple, la maison des archives du gouverneur de la province centrale de Bornéo, de Kalimantan Tengah, en indonésien, cette maison des archives a brûlé. Et à l'intérieur, il y avait pourtant tous les permis.
C'est bizarre.
Voilà, c'est bizarre. Très bizarre.
Et alors, selon une étude des universités de Harvard et de Columbia qui vient de sortir, ces incendies ont produit des niveaux extrêmement dangereux de pollution. Vous aviez raison de vous inquiéter en tant que papa, puisque la fumée aurait causé plus de 100 000 décès prématurés en
Exactement.
Asie équatoriale.
Et c'est fou. Moi, ce qui m'a mis en colère, c'est que personne bougeait concrètement en Indonésie. Les gens restaient silencieux. Donc en fait, quand moi j'ai fait cette vidéo, je me suis rendu compte que ce sont les Indonésiens eux-mêmes, puisqu'elle avait été vue plus d'un demi-million de fois quand même sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, où là ça a vraiment tourné de partout. Et ces gens se sont sentis un peu... enfin, il y a quelqu'un qui parle pour nous. Et je pense que c'est ça qui a fait que la vidéo est devenue virale. Et parce qu'effectivement, tous les asthmatiques, vous imaginez le sort des asthmatiques dans un endroit où on ne voit pas à 50 mètres tellement les fumées sont épaisses, et ça pendant des mois.
Mais il y a pas mal d'ONG quand même en Indonésie. Est-ce que vous vous fédérez pour dénoncer
tout
ça ?
Eh bien, ce qui m'a surpris concrètement là-bas à l'époque, c'est j'ai été un peu déçu, c'est que j'ai quasiment pas reçu de message de soutien ou de... Pourtant, j'étais quand même...
Alors pourquoi ? Parce que c'est trop frontal vis-à-vis des intérêts
du gouvernement ?
Je ne
sais pas, je pense que c'est très facile pour des ONG de dénoncer l'huile de palme en Europe. Et puis développer, c'est très facile. Mais il y a beaucoup moins d'ONG qui prennent le risque de dénoncer concrètement là-bas ce qui se passe, donc directement auprès des autorités indonésiennes. Et vous savez, vous avez toujours cet argument, ça fait du travail aux populations.
Oui, mais enfin là, le coût des incendies, par exemple, a été estimé à 16 milliards de dollars de pertes, sèches pour le gouvernement indonésien. L'huile de palme rapporte plus ?
Ah, mais c'est certain. Et surtout à l'échelle des provinces. Il faut toujours recadrer à l'échelle des provinces, l'autonomie des
provinces. Parce que l'Indonésie est un pays immense.
Exactement. L'autonomie des provinces qui a commencé en 98 en Indonésie laisse vraiment une liberté extrême à ses gouverneurs et aux chefs du district. Et pour eux, évidemment, qu'avoir 6 mois de fumée et certes des contraintes, puisque les avions ne se posent plus, certes des pertes, si derrière les terres sont converties au plus vite pour l'industrie de l'huile de palme, c'est tout bénef.
Mais pourtant, il y avait un moratoire sur les permis de défrichement qui visait à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 26% d'ici à 2020. Il avait été mis en place en 2011. Le président a d'ailleurs donné de nouvelles directives contre les feux, justement, dans les tourbières.
Voilà, donc moratoire sur la déforestation dans les tourbières qui ne s'applique qu'aux compagnies. Et on voit un phénomène qui s'accentue à l'heure actuelle en Indonésie. Ce sont les propriétaires terriens privés qui vont quand même avoir la mainmise sur des centaines d'hectares. Et ces privés, donc on va les appeler des villageois, c'est ce que disent les autorités là-bas, eh bien vont déforester, et ils ont le droit de le faire puisqu'ils ne sont pas sujets au moratoire, et ils vont faire des plantations de palmiers à huile, et le résultat de ces plantations sera vendu à la compagnie qui est à côté. Et la compagnie va se laver les mains et dire « Regardez, ce n'est pas nous qui avons brûlé, ce sont les villageois ».
Donc vous voulez dire qu'en fait, les compagnies financent la population locale.
Financent, poussent des propriétaires terriens, et ça a été le cas dans énormément d'endroits l'année dernière, et c'est principalement eux qui ont brûlé dans les zones de tourbières l'année dernière. Mais encore une fois, il ne faut pas regarder simplement à la surface où on voit simplement des privés, donc on va avoir la tendance à dire que ce sont des petits cultivateurs, et on se rend compte que les canaux qui ont servi, par exemple, pour drainer l'eau des tourbières ont été faits au bulldozer. Vous savez combien coûte l'heure de location d'un bulldozer à Bornéo? C'est 5 millions de roupies, c'est quasiment 400 euros. Donc les villageois, ils sont devenus très très riches quand même.
Et alors du coup, vous achetez des hectares et des hectares de terre pour essayer de les protéger? Vous
Exactement.
En êtes où?
Exactement. Alors à l'heure actuelle, Kalawet, on a 285 hectares à Sumatra, plus de 100 hectares à Bornéo, alors qu'à Bornéo, on a commencé que l'année dernière. On a des promesses de dons et des soutiens aujourd'hui qui nous permettent de dire qu'on va doubler voire tripler la surface à Bornéo dans les 12 mois à venir. Donc c'est très positif. Et en fait, je fais exactement la même chose que ces propriétaires terriens privés qui, eux, font du palmier à huile. Moi, j'achète, mais pour protéger la végétation et les animaux qui s'y trouvent. Il y a quand même une bonne nouvelle du président Jokowi cette année. En avril, il a annoncé un moratoire sur les permis d'exploitation des compagnies d'huile de palme. Alors c'est une bonne nouvelle, puisque ça annonce quand même la fin d'un cycle. Par contre, il y a déjà des permis qui ont été attribués pour énormément de compagnies, donc ça ne va pas arrêter la déforestation du jour au lendemain. Mais c'est quand même une annonce importante, je dirais, et là qui concerne l'ensemble du territoire indonésien, pas simplement les zones de tourbière. Et ça, c'est important.
Et alors, comment ont réagi les compagnies ?
Elles ont rappelé qu'elles embauchaient tant de personnes, qu'elles représentaient plus de devises pour le gouvernement indonésien, plus d'intérêts que le gaz et le pétrole notamment. Elles ont simplement remis sur la table qu'économiquement parlant, il fallait que le gouvernement indonésien continue de protéger l'industrie de l'huile de palme. Mais cette annonce est quand même bien reçue par les ONG, y compris Kalawet, parce que c'est un moratoire global.
Mais
encore une fois, je pense que oui, puisque ça vient
puisque
de Jakarta.
Puisque tout se décide au niveau des provinces.
Les permis, ces compagnies, pour travailler en Indonésie, ont quand même besoin de permis de Jakarta. Ensuite, l'attribution des terres va arriver dans les provinces. Donc si on prend le problème à la base, au début du processus, oui, c'est jouable. Moi, simplement, je n'arrive pas à quantifier et à connaître le nombre de permis qui ont déjà été délivrés, qui n'ont pas été mis en application, donc délivrés avant le moratoire. Je ne sais pas combien de terres cela représente. Est-ce que déjà tout a été attribué, donc en fait c'est facile de faire un moratoire ou pas? Ça, je ne sais pas.
Et qui sont les principales compagnies aujourd'hui
Elles viennent de Malaisie, elles viennent de Chine. Même si ce sont des compagnies indonésiennes, la plupart du temps, elles font partie d'un consortium qui, lui, est malais. Voilà. Et puis, avant tout, les premiers consommateurs, et c'est eux qui investissent aussi beaucoup, c'est l'Inde et la Chine. Sont quand même c'est le principal marché de l'huile de palme.
Et là où vous achetez donc des hectares de forêt, ça fait quoi? Ça fait des endroits qui du coup sont un peu sous cloche et la faune reprend?
Ça devient des réserves. Alors c'est bien d'acheter, mais c'est une première pierre. Ensuite, il faut protéger ces zones-là concrètement. Donc moi, j'ai des équipes sur le terrain qui patrouillent tous les jours, des patrouilles équestres notamment. Et donc ce sont des réserves privées où évidemment la faune est protégée. Et donc ce sont des endroits où la faune est...
Sorte d'oasis un peu.
Sorte d'oasis. c'est ça, sort d'îlot.
Est-ce que c'est toi par hasard qui fabrique les tempêtes, les typhons, les tornades et les cyclones? Est-ce que c'est toi qui les lance sur la mer quand ça te fait plaisir?
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI en compagnie de Chani, fondateur de l'ONG Kalawet qui se bat depuis près de 20 ans pour la protection des gibbons et des siamangs à Bornéo et à Sumatra en Indonésie. Alors Chani, rappelez-nous pour qu'on comprenne bien les conséquences de nos actes. Dans quel contexte vivent aujourd'hui les gibbons de Bornéo ?
Alors les gibbons, comme tous les autres grands singes et toute la faune indonésienne, se retrouvent en fait dans une forêt de plus en plus fragmentée. Puisque c'est pas avant c'était une forêt dégradée, aujourd'hui c'est une forêt fragmentée parce que complètement détruite à certains endroits pour notamment la monoculture. Et puis il va rester des îlots de forêt comme ça où les populations sont d'autant plus fragiles puisque les habitats sont réduits et donc des populations animales séparées les unes des autres. Et un habitant, encore une fois, extrêmement menacé, puisqu'une pression humaine très présente tout autour. Par exemple, il y a beaucoup de forêts vides maintenant, de certaines espèces, puisque les ouvriers des compagnies qui travaillent aux alentours ont chassé dans ces forêts petites, où les animaux sont plus faciles à chasser. Donc,
Mais ça, c'est le double effet des cultures.
Le double effet, exactement.
Il faut nourrir ceux qui sont dans les plantations.
Voilà, et les ouvriers qui travaillent dans ces plantations, pour la plupart, ce sont des colons, ce ne sont pas des gens qui sont originaires de ces zones-là, donc qui ont une manière de vivre et des habitudes alimentaires différentes.
Ils viennent d'où ?
Ils viennent principalement de Java, sur Bornéo, puisque les populations d'Ayak, originaires de Bornéo, pour la grande majorité, ne travaillent pas dans ces grandes plantations. Et donc, en fait, tout ça crée une pression supplémentaire sur les pauvres gibbons qui arrivent à survivre dans la forêt restante. Donc, c'est une situation qui reste une situation d'urgence et pour mettre sous cloche, justement, ces poches de forêt qui restent.
Alors, l'huile de palme, il y en a partout.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que c'est, en fait, un produit qui fond à très haute température. Donc, du coup, on peut en mettre dans des pâtes à tartiner. On le voit aussi dans des cosmétiques,
dans plein
d'objets qui nous
voilà,
entourent.
Voilà, c'est surtout économique. C'est l'huile la moins chère au monde. Voilà.
On voit apparaître depuis quelque temps des petits labels qui nous disent qu'il existe de l'huile de palme durable.
Alors, cette huile de palme durable, sur le papier, ça ressemble à quelque chose qui tient la route. Par contre, sur le terrain, pour des gens comme moi, ce n'est absolument pas un outil pour lutter contre la déforestation aujourd'hui en 2016. D'ailleurs, ce label qui est lié à la RSPO, donc la table ronde pour l'huile de palme durable, ce n'est pas quelque chose de vraiment très nouveau quand même. Ça existe depuis le début des années 2000,
je dirais. Cette table ronde, elle réunit des industriels, des ONG.
Voilà, pour se mettre d'accord pour faire une huile de palme durable. La petite parenthèse, c'est que je n'ai jamais douté malheureusement que l'huile de palme serait durable. Après, les conditions de durabilité, c'est ça où il faut se poser des questions. Mais elle est existe cette table ronde depuis plus de 10 ans, je dirais 13-14 ans, je ne voudrais pas dire de bêtises. Est-ce que pendant toutes ces années, la déforestation a diminué à Bornéo ? Il suffit de regarder.
Non, mais est-ce que c'est parce que la part d'huile de palme durable n'est pas assez importante ou est-ce que c'est parce que vraiment ça ne fonctionne pas ?
C'est parce que ce n'est pas une obligation. C'est que si vous êtes concerné, vous êtes à la tête d'une compagnie, vous vous dites, moi je vais faire les choses avec attention et je ne vais pas provoquer de la déforestation, on va vous proposer une parcelle de forêt à Bornéo, vous allez vous rendre sur place, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de forêt, que c'est une forêt de très bonne qualité, que ce n'est pas possible de faire du palmier là parce que sinon vous allez participer à la déforestation. Donc vous allez refuser. Le chef du district va vous regarder, il n'y a pas de souci. Et puis la semaine suivante, il y aura une autre compagnie qui, elle, n'est pas du tout RSPO, qui aura la mainmise sur cette concession. Puisque, encore une fois, qui est demandeur d'une huile de palme durable ? C'est l'Europe, c'est les pays développés. Et derrière, il y a quand même l'Inde et la Chine qui sont les premiers consommateurs d'huile de palme.
Donc en volume, ça ne tient pas la route.
Exactement, en volume, ça ne tient pas la route. Et le jour où ça tiendra la route, ça sera trop tard. C'est-à-dire que le jour où toutes les compagnies seront RSPO sur place, ça sera trop tard. La solution, les critères qu'il y a dans la RSPO, il faut s'en inspirer quand même, mais il faut que ça devienne quelque chose inscrit dans la législation indonésienne. Là, ça aura un impact. Être obligé de protéger une partie de sa concession, ce qui existe dans le label de la RSPO, il faut que ça soit une contrainte dans la loi, dans les pays où on fait de l'huile de palme, notamment en Indonésie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui était pourtant le cas dans le passé en Indonésie pour les compagnies forestières, elles étaient obligées de protéger une partie de leur concession. Ce n'est plus le cas pour l'huile de palme. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais là, je serais complètement d'accord. Donc, qu'il y ait une table ronde pour faire du lobby auprès des gouvernements, notamment en Indonésie, là, je dis oui.
Alors voilà pourquoi il ne faut pas être vraiment fier qu'en juin dernier, les députés français aient à nouveau renoncé à la surtaxation de l'huile de palme dans le cadre de la loi biodiversité. Ils ont cédé finalement aux protestations des principaux producteurs mondiaux,
la Malaisie.
Vous avez suivi ça ? Oui, ça fait trois fois que ça passe au Parlement français, trois fois que c'est rejeté. Alors vous me direz, comme vous le disiez, la France n'est pas le pays qui consomme le plus d'huile de palme, mais bon, c'est symbolique aussi.
C'est symbolique et puis ils ont vraiment peur que ça fasse tache d'huile et que les autres...
C'est le cas de le dire.
Voilà, exactement. Mais c'est à l'image d'un commentaire de l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault quand il avait fait un déplacement en Malaisie, qu'il avait dit que la France n'avait rien contre l'huile de palme. Les lobbies de la Malaisie, de l'Indonésie, il faut quand même appeler qu'il y a quand même des grosses commandes Airbus provenant de ces pays.
Alors, vous avez créé une radio, une série télévisée, vous devenez même une star de la télévision en France avec des émissions. On vous voit désormais emmener des personnalités à la découverte de cette faune que vous connaissez si bien. Est-ce que vous avez l'impression, quand même, avec près de 20 ans de combat, que les choses avancent, les mentalités évoluent ?
Oui, quand même, puisque justement Calaouette arrive à grandir grâce à plus en plus de soutien sur place et notamment des populations. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de signes positifs, mais il y a trop peu de personnes qui se rendent compte de l'urgence de prendre des actions concrètes. Sur le terrain concrète, c'est que les grandes études, les grands discours, c'est un peu désuet, il faut mettre ça de côté, il faut agir concrètement. Moi, ce que j'utilise, je vous parlais d'outils tout à l'heure par rapport à la lutte contre la déforestation, ce dont j'ai besoin, c'est vraiment ça. Les outils, c'est pour moi le cadastre, c'est la législation, c'est ça qui concrètement, on a déjà des armes en main pour essayer de sauver un maximum sur place. Alors c'est vrai qu'à l'échelle de Calaouette, avec nos fonds, avec la méthode d'acheter des terrains, on ne va pas pouvoir sauver des centaines de milliers d'hectares, mais il n'empêche qu'on peut déjà sauver plein de choses. Et moi, j'aimerais que de manière générale, même les autres ONG, et les autres se concentrent sur des projets concrets.
Oui, surtout que le nouvel Eldorado, c'est l'Afrique aujourd'hui.
Exactement. Exactement, qui va être dévasté comme l'Indonésie l'a été et la Malaisie, si on ne fait rien. Donc encore une fois, moi je suis un peu frustré quand on reste encore dans une rhétorique alors que concrètement sur le terrain on peut faire la différence.
Alors l'avantage d'un média comme RFI c'est que l'on peut faire des ponts entre l'Indonésie et l'Afrique, donc s'il y a des Africains qui nous entendent et qui ont envie de se mobiliser, ils peuvent vous contacter parce que vous avez, on l'a entendu quand même, une bonne expérience de résistance. Merci beaucoup Chani d'être passé dans C'est pas du vent. On peut si on veut soutenir aussi votre association
www.calaouette.org c'est le moyen idéal pour nous contacter, donc Calaouette Calaouette.
Il y a plein de moyens d'agir. Restez sur RFI juste après le flash d'info. Nous vous démontrerons avec nos invités comment passer de l'envie de changer le monde à l'action. À tout de suite. International.